بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد لله، nous abordons le 20e juz et une partie également brièvement du 19e sura. Et les surat qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne ici sont d'abord la surat An-Naml dans le 19e juz, qui comprend essentiellement l'histoire, en tout cas dans la première partie, de Hazrat Sulayman alayhi salat wa salam et Bilqis, la reine de Saba. Dans cette histoire, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne les innombrables bienfaits qu'il a octroyés à Hazrat Sulayman alayhi salat wa salam. Il avait un grand royaume, il avait le pouvoir de comprendre le langage des animaux. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Dans un autre verset du Coran Sharif, Allah Ta'ala dit وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Il avait également la possibilité, grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala, de voyager aussi vite que le vent. Et Sulayman alayhi salatu wasalam, il contrôlait également, sous l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les djinnat. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de cela dans ce récit, et Allah tabaraka wa ta'ala nous montre également à travers cela la puissance d'Allah. Dans un des événements qui s'est produit, on ne va pas raconter toute l'histoire, il est mentionné que lorsque Sulayman alayhi salat wa salam a pris l'existence de cette reine de Saba qui n'était pas musulmane, alors à un moment lorsqu'elle est venue vers lui, comme on a dit il y a quelques éléments avant cela, mais lorsqu'elle est venue le rencontrer, Sulayman alayhi salat wa salam, il a demandé aux gens qui étaient parmi lui, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Lequel d'entre vous va pouvoir me rapporter son trône à elle, c'est-à-dire le trône de Bilqis. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit en ce sens que la longueur de ce trône, il était de 80 coudées, la largeur de 40 coudées, la hauteur de 30 coudées, et dessus, sur ce trône-là, il y avait différents types de pierres d'émeraude, et ce trône, il était protégé, on va dire, par 7 bâtiments. C'est-à-dire que pour arriver à cela, c'était une véritable forteresse. Et Sulayman alayhi salat wa salam, il a demandé aux gens qui étaient donc dans son assemblée, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Et là, le Coran Sharif nous dit, qala ifritum min al-jinn. Un parmi les djinnats, il a dit que moi je vais accomplir cela. Et finalement, par la suite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit que qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab. La personne qui avait la science du livre. Alors les mufassirin 'alayhim ar-rahma, ils nous disent qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'il se peut que cela soit Sulayman alayhi salat wa salam lui-même, ou alors que cela soit un autre personnage qui était donc de sa famille. Et plusieurs mufassirin alayhim ar-rahma, ils sont allés également dans ce sens-là. Et ils disent que wallahu alam, il avait donc la connaissance de ce qu'on appelle le Isme Azam, c'est-à-dire le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, par lequel Allah tabaraka wa ta'ala accepte toutes les invocations. Mufti Sahab rahmatullahi alayh, il nous dit que cela ne veut pas dire que si cette personne avait la connaissance du Isme Azam, que Sulayman alayhi salat wa salam, il ne l'avait pas. Non, bien au contraire. Mais pour que cela fasse plus d'effet sur la reine de Saba, en l'occurrence Bilqis, c'est pour ça qu'il a demandé donc à cette personne-là, Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, il donne le nom de cette personne comme étant Asif bin Barkhiya, Allahu alam. Et il est dit que c'était donc le cousin Khala Zad Bay, si je me trompe, c'est le cousin donc de Hazrat Sulayman alayhi salat wa salam. Bref, et puis quand Bilqis allait arriver, le arche, son trône à elle, Sulayman alayhi salat wa salam, l'avait mis de sorte que fait quelques petites modifications, et elle a vu que cela était présent. C'était présent devant elle. Donc ça a fait un grand effet sur elle, et ça c'est pour montrer donc la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est capable de donner le pouvoir à qui il veut. Il est capable d'honorer qui il veut. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah, il déshonore qui il veut. À qui Allah tabaraka wa ta'ala veut donner la maladie, la richesse, la vie, la mort. Tout dépend d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a quelque chose qui est important également, c'est que si on va prendre l'opinion selon laquelle ce n'est pas Suleyman alayhi salatu salam lui-même, de par la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, a fait amener ce arsh, mais c'est donc, comme on vient de monter, Asif bin Balkhiya, si c'est lui, alors cela voudrait dire que c'est ce qu'on appelle un karama. Un karama, si vous voulez, c'est un miracle. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas prophète, il accomplit quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Et si c'est un prophète, un nabi, un messager, un envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala qui accomplit ce genre de choses, alors ça devient ce qu'on appelle un mu'ajiza. Un mu'ajiza, donc il y a une différence dans l'utilisation de ces termes-là. Donc Suleyman alayhi salatu wassalam, il a donc mis ça devant Hadrat Bilqis, et puis l'histoire elle se poursuit. Mufti Sahab rahmatullah alayhi a longuement développé beaucoup de masa'il. Est-ce qu'on peut se marier avec une djinna? Est-ce qu'il s'est marié avec elle, etc., etc., etc. Mais on ne va pas entrer dans ces détails. Tout ce qu'on peut dire, c'est que d'après le Coran Sharif en lui-même, oui, effectivement, même les djinnat, ils ont ce qu'on appelle une descendance. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ. Lui et donc sa descendance, etc. Donc mon fils Abou Rahmatullah Ali, il a parlé un peu de ça, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Le premier élément qu'on va développer, inshallah, brièvement dans cette première partie de fiqh, c'est à travers un verset du Coran Sharif de cette 20e sipara et de la sourate An-Naml. Allah Ta'ala dit إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. Tu ne peux faire entendre les morts. Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Et le mas'ala, la question ici, c'est justement, est-ce que les morts, ils peuvent entendre? Les morts peuvent-ils entendre? Est-ce qu'ils sont dans le tombe? Mufti Sahab rahmatullahi alayh, il nous dit, la première information qu'il nous donne par rapport à ça, c'est qu'entre les sahaba radiyallahu anhum, eux-mêmes, il y avait divergence. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, lui, il était d'avis que oui, les morts peuvent entendre. Tata Aisha radiyallahu ta'anha, elle était d'avis que non. Pourquoi? Donc on vient de voir un ayat là, innaka la tusmi'u al-mauta. Allah Ta'ala dit que tu ne peux, au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux faire entendre les morts. Dans un autre verset du Coran Sharif, sourate Ar-Rum, Allah Ta'ala dit fa innaka la tusmi'u al-mauta. En vérité, tu ne fais pas entendre les morts. Et dans un autre verset de la sourate Fatir, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Ça, c'est pour dire que ce n'est donc pas possible. Néanmoins, les savants qui penchent plutôt pour l'avis favorable, ils disent que, ça c'est la finesse de la langue arabe, et du Coran n'est pas que la parole d'Allah Ta'ala, que le mot qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a utilisé ici est isma', ça veut dire faire entendre. Donc Allah Ta'ala, il dit que toi, de par ta capacité, tu ne peux pas faire entendre les morts. Ce qui ne veut pas forcément dire que les morts ne peuvent pas entendre. Mais toi, tu ne peux pas, de par ton pouvoir, faire entendre les mots. C'est ce qu'on appelle ismar. Sinon, le mot en arabe aurait été samira yasma'u simar. Donc, c'est la différence d'un alif. Bref, ça, c'est dans la langue arabe, Allahu alam. Et si on va un peu plus loin, Mufti Mahmoud Gangoui, rahmatullahi alayh, lui, il dit il y a ce qu'on appelle simar, l'écoute, ismar, faire entendre, et istimar, écouter attentivement. Fastami' lima yuha. Bref, ça c'est quelques détails par rapport à la langue arabe. Maintenant, pour ceux qui sont d'avis que oui, alors il y a le ayat qui parle des martyrs. Donc il dit ce que vous voyez, ces gens, Allah Ta'ala dit qu'ils sont vivants auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et les autres, ils répondent, ils disent que oui, mais là, ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle des shuhada. Donc ce sont des martyrs, ce sont une catégorie de personnes bien particulière. Bref, en conclusion, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali a une autre dalil, une autre preuve également qu'on peut mentionner. C'est un hadith sharif rapporté par Abdullah bin Umar radiallahu anhuma qui dit en ce sens qu'aucun d'entre vous, ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-muslim, aucun d'entre vous ne passe par la tombe de son frère musulman, kana ya'rifuhu fi dunya, qu'il connaissait dans ce monde, fayusallimu alayhi, il fait le salam sur cette personne, illa raddallahu alayhi ruhahu hatta yarudda alayhi salam, sans qu'Allah Ta'ala ne ramène son âme dans la personne qui est décédée, et cette personne, elle répond à son salam. Donc ça, c'est une preuve pour dire que oui, ils nous entendent. En conclusion, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi dit qu'il n'y a aucune décision qat'i, c'est-à-dire vous avez vu, même entre les sahaba radiallahu anhum, il y avait ce genre de divergence. Et on ne peut pas de manière qat'i, ça veut dire authentique, fermement décider, faire une décision. C'est pour ça qu'Imam Ghazali alama subki rahimahullahu ta'ala, ils sont d'avis que parfois les morts peuvent entendre. Mais cela ne veut pas forcément dire que tous les morts peuvent entendre toutes les paroles dans tous les endroits. Cela ne veut pas dire que chaque mort entend chaque parole dans chaque endroit. Et il nous dit que là où les hadiths et Mubaraka ont affirmé que les morts peuvent entendre, alors on va croire. Et là où il n'y a pas de négation ni d'affirmation, alors il y a les deux possibilités. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il sait mieux. Pour ceux qui sont, allez, en amont plus particulièrement, qui veulent développer ce sujet, Mufti Sahib Rahmatullahi Ali, dans Ahkam al-Qur'an, la version arabique qu'il a écrit, il a écrit justement un petit risala fascicule qui s'appelle Takmilul Jour Bisima'i Ahlil Qubur. Takmilul Jour Bisima'i Ahlil Qubur. Donc ça, Mufti Sahib Rahmatullah lève ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on peut voir dans les croyances, dans les aqaïdes, dans la partie fiqh, c'est quoi? C'est à travers un verset du Qur'an Sharif qui nous parle d'un des signes très fort de la fin du monde qui arrivera vraiment au dernier moment. Et c'est ce qu'on appelle le Dabbatul Ard. Alors certains le traduisent par l'animal de la terre ou bien la bête de la terre. Dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. À partir de ce verset, Allah ta'ala nous dit: et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera. Alors maintenant, concernant cette bête, Mufti Sahib rahmatullahi alayhi, il a été assez succinct, mais plutôt on va dire perspicace et efficace. Il dit que même Hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala et d'autres mufassirin alayhim ar-rahma, et c'est là qu'il faut faire attention dans les tafasir, ils ont mentionné beaucoup de riwayat. Même si vous allez faire des recherches sur internet, taper par exemple Dabbatul Ard, etc., vous allez voir qu'il vous donne une définition, qu'il a une tête qui ressemble à ça, un bec qui ressemble à ça, et il y a telle description, il y a toutes les couleurs, il y a ceci, etc., 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 etc. Bref, Mufti Sahib rahmatullahi alayhi, il dit, d'après les hadith sahih, qu'est-ce qu'on apprend? Jitna bat Qur'an ki ayat al hadith sahih, c'est sabit hai ki ye ajibul khilqat janwar hoga. C'est-à-dire, ce sera un animal qui sera étrange. Ce sera un animal qui sera étrange. Et Mufti Sahib rahmatullahi alayhi dit qu'il ne sera pas, il n'a pas été créé comme les autres animaux, il ressortira de la terre. Il mentionne également que cette bête, elle apparaîtra, elle sortira quand elle va apparaître. Un groupe de gens, ils vont s'enfuir, et d'autres, ils vont rester devant cette bête-là, et leurs visages seront illuminés par cette bête. Ensuite, il est dit, Wallahu alam, qu'il sortira donc du mont Safa à Makkah Mukarrama, il arrivera entre la pierre noire et le Maqam et Ibrahim, et ensuite, il, on va dire, parcourra ainsi la terre, et là, il mettra le signe de kufr sur toutes les personnes qui sont non-musulmanes. Wallahu alam, Allah tabarak wa ta'ala, il sait mieux. Et ça, juste après, dans un hadith sharif rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, si je ne me trompe, il est dit en ce sens qu'entre ce signe et le lever du soleil à l'ouest, alors l'un, il va suivre l'autre. C'est-à-dire, dès que celui-là il va arriver, immédiatement l'autre va arriver, et la fin du monde ne tardera pas par rapport à cela. Donc ça également, c'est une réalité du qiyamah, qu'Allah ta'ala nous fasse, inshallah, préparer par rapport à cela. Donc en résumé, on a dit... C'est un animal étrange qui va sortir, qui arrivera parmi les signes de la fin du monde. Et toutes les descriptions qu'il y a, Wallahu alam, sauf si bien sûr on a connaissance de hadith sharif qui est sahih. Alors dans ce cas-là, on pourra apprendre et Allah ta'ala yasim. Toujours dans les signes de la fin du monde, à un moment dans un des versets, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Le jour où on soufflera dans la trompette, tous les habitants des cieux et de la terre, ils seront effrayés, fazi'a. Et dans un autre verset du Coran Sharif, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Az-Zumar, fa-sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard, va tomber sans connaissance. Illa man sha'a Allah, excepté ceux qu'Allah ta'ala veut. Alors qui sont-ils? Hazrat Allama Suyuti rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre là-dessus qui est très bien fait, que Hazrat Qari Tayyib Sam rahimahullah ta'ala, il a conseillé, qui est traduit également en ourdou, qui s'appelle Al-Budur Safira fi Umur al-Akhira. Akhirat ki ajib wa gharib halat, ça c'est la traduction en ourdou. Et dedans, ils ont mentionné que certains savants, ils disent qu'il y aura en réalité trois souffles de la trompette. D'autres, ils disent que non, il y aura deux. C'est-à-dire, ils ont regroupé Allama Shabir Ousmani, rahimahullah ta'ala également. Il a fait, on va dire, ce tatbik, que le premier, lors du premier, il y aura justement cette frayeur. Et de cette frayeur, les gens, ils vont donc tomber sans connaissance. Et ensuite le deuxième où tout le monde va être ressuscité. Et d'autres ils ont dit Wallahu alam qu'il y en aura trois. Allama Suyuti rahimahullah ta'ala, il a développé ça donc dans ce livre. Et Allah ta'ala nous dit que cela va arriver. Et cette scène du Qiyamah, dans plusieurs versets du Coran Sharif, Allah ta'ala, il a décrit qu'est-ce qui se passera à travers les montagnes, qu'est-ce qui se passera à travers les cieux, etc. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. De même dans la sourate Al-Qari'ah, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, les montagnes elles seront comme de la laine cardée. Bref, en résumé, tout ce qui va exister sur la terre va être totalement détruit. Il t'interroge au sujet des montagnes. Allah Ta'ala dit, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Donc Allah Ta'ala va faire détruire tout ce qui existe sur cette terre-là. Pour ce qui concerne les masajid, on avait dit dans les tafsirs à Saint-Pierre, en ce sens, toujours d'après ce livre-là, qu'il y a un riwayat, je ne me souviens plus, je crois que j'avais dit que c'était un riwayat daif, Allahu alam, qui dit qu'effectivement Allah Ta'ala il élèvera les masajid et les masajid seront protégés. Allah Ta'ala il sait mieux. Donc pour plus de détails, on peut se référer à ce kitab donc dans la Masuyuti rahimahullah ta'ala. Maintenant dans la deuxième partie, celle des péchés, on va mentionner l'histoire de Qarun. Dans la sourate Al-Qasas, Allah Ta'ala il nous parle de ce Qarun qui était quelqu'un parmi les Bani Israël. Et on nous dit même, Allah Ta'ala lui-même dit, Inna Qaruna kana min qawmi Musa. Il était du peuple de Moïse, de Hadith Moussa alayhi salatu wa salam, qu'on appelle donc Corée en français. Et donc, lui, Allah Ta'ala lui avait donné une grande richesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était de la famille de Hadith Moussa alayhi salatu wa salam. Et lorsque Pharaon il était au pouvoir, Pharaon l'avait choisi donc pour être un de ses proches, pour appliquer ses sentences, ses punitions, etc. Mais lorsque Hadith Moussa, et lorsque justement il était travaillé pour Pharaon, il avait accumulé une grande richesse, une très grande richesse. Allah Ta'ala dit وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُسْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Pour montrer la grandeur et l'amplitude de cette richesse, Allah Ta'ala dit, nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Ça veut dire juste pour porter la clé de ce trésor-là, il fallait plusieurs personnes pour porter les clés de ses trésors. Et Allah Ta'ala dit, il قال له قومه, lorsque son peuple lui a dit la tafrah, ne te réjouis pas, inna Allah la yuhibbu al-farihin, car Allah Ta'ala n'aime pas les gens qui sont arrogants. Mais il a continué, il a persisté là-dedans. Et lorsque Moussa alayhi salat wa salam il a été sauvé avec son peuple par Allah tabarak wa ta'ala, et donc il est revenu, on va dire, au pouvoir des Bani Israël, là lui il a commencé à être un peu à l'écart, et surtout il était habité par beaucoup d'orgueil et beaucoup de jalousie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis en place un très mauvais plan contre Hazrat Moussa alayhi salat wa salam, qui nous montre que ça c'est un des grands pièges du shaitan, comme on avait dit dans l'histoire de Bal'am bin Ba'oura, si vous vous souvenez, وَتْلُوا عَلَيْهِ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Et Qarun, qu'est-ce qui s'est passé? Moussa alayhi salat wa salam, à un moment, il a demandé de donner la zakat. Et là, il a dit, il a répondu, il a dit que « Oh toi, Moussa alayhi salatu wassalam, tu es toujours en train de nous demander de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais là, cette ordre-là, ça on ne peut pas accepter. Tu me demandes maintenant de prendre de mon argent. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé et convaincu quelqu'un, une dame, d'aller annoncer en pleine assemblée devant les gens que Moussa alayhi salatu wassalam a commis l'adultère avec moi. Et c'est ce que cette dame, elle a fait afin donc que Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam il ait une très mauvaise réputation. Et c'est ce que cette dame elle a fait. Et ensuite Moussa alayhi salatu wassalam lui a demandé, comme on a vu pour la sourate An-Nur, lorsqu'il y a le zina, etc., demander shadid qasam, c'est-à-dire jure par Allah tabaraka wa ta'ala si véritablement tu dis la vérité. Et à force de lui demander ça, finalement elle a eu peur et elle a dit que non, ça c'est Qarun qui m'a fait dire ça. Et donc voilà comment est-ce qu'il a voulu donc détruire na'uzubillah Moussa alayhi salat wa salam. Et ce qu'on apprend, ce qu'on retire de cela, surtout c'est quoi? Comme pour l'histoire de Hadith Bal'am bin Ba'oura, c'est que en dépit, Allama Shabir Osmani rahimahullah ta'ala, il disait que c'était quelqu'un qui avait la science de la Torah et c'était quelqu'un qui lisait beaucoup la Torah. Tawrat bahat parta or ilm hasil kalim et mashghoul rihtata. Il lisait beaucoup la Torah, il était plongé dans l'étude et l'acquisition de la science. Magal, magar, dil safnata. Mais son cœur n'était pas propre. Il avait donc beaucoup de, de jalousie et de haine par rapport à Moussa alayhi salatu wasalam, ce qui a fait qu'il a donc été perdu par rapport à ça. Et ça, ce sont deux grands fitnas, comme on l'a vu à travers ces deux récits dans le Coran Sharif. L'amour de l'argent, la volonté d'être célèbre, la volonté d'être connu, d'être meilleur que les autres, de dénigrer et de considérer les autres comme inférieurs, et à travers également les passions des femmes, etc. Ça, ce sont deux pièges, on va dire, privilégiés de Shaitan. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous protège, comme Hadith Ma'ana Zakaria Adam al-Barakatuhum, il a dit que même Yusuf alayhi salatu wasalam était venu, il a dit وَمَا أُبَدِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ مِّسُّ. Donc il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, faire confiance à son nafs. Personne n'est véritablement à l'abri. Seul Allah tabarak wa ta'ala, il sait, et seul Allah tabarak wa ta'ala, il peut protéger donc des péchés. Allah ta'ala, il nous fasse, inshallah, avec un fiat parmi ces gens-là. Ensuite, dans la dernière partie, pour terminer, inshallah, celle de Tazkiyah brièvement, on va reprendre le dua. On va terminer sur le dua de Hadith Sulaiman alayhi salatu wasalam. On a vu qu'Allah ta'ala lui a donné beaucoup de bienfaits, beaucoup de ni'mat, le contrôle sur les djinnats, pouvait comprendre le langage des oiseaux, mais Mufti Sahab rahmatullah dit également le langage de tous les animaux, comme pour la fourmi, l'histoire de la fourmi. D'ailleurs, à ce propos, dans cette histoire de la fourmi-là, il y avait un cheikh de Palestine qui était venu une fois dans la madrasa. Il a écrit un livre là-dessus, sans conseil, sur la manière d'inviter les gens de donner da'wat à travers juste ce récit-là, le récit de An-Naml, c'est-à-dire de la fourmi. Donc, Hazrat Sulaiman alayhi salatu wasalam, il a fait dua avec Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Il dit, oh Allah, permets-moi de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, à moi ainsi que mes pères et mères. C'est-à-dire tous les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala il m'a donné, donne-moi la possibilité de te remercier, donne-moi la possibilité de faire le shukr. Alors, comme on avait dit la dernière fois, selon la parole de Hadith Omar radiallahu ta'ala anhum, que parfois il est plus facile de passer le test de la difficulté, c'est-à-dire du sabr, plutôt que le test de la facilité, c'est-à-dire du shukr. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en pleine facilité, alhamdoulilah, on est dans l'aisance, nous avons, alhamdoulilah, beaucoup de moyens, etc., alors on oublie beaucoup plus facilement Allah tabarak wa ta'ala que lorsqu'on est dans la difficulté. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيدٍ. Allah ta'ala dit quand on est atteint par un mal, alors là on fait, ou bien on a besoin de quelque chose avec beaucoup d'humilité, on fait beaucoup de dua avec Allah tabarak wa ta'ala. Mais lorsqu'Allah ta'ala, il dit, lorsqu'on donne un bien à l'être humain, alors il nous oublie et il se détourne de nous. Et parfois on peut demander quelque chose, demander quelque chose. Mais Allah tabarak wa ta'ala, par amour, c'est-à-dire parce qu'il aime voir son serviteur en train de pleurer, en train de demander volontairement Allah ta'ala, il laisse le serviteur dans cette situation-là, et bien évidemment, il nous accorde une beaucoup plus grande récompense à travers ses doigts dans ce monde et dans le doula. Donc, Sulaiman alayhi salatu wasalam a dit « An ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi ». Remercie Allah tabarak wa ta'ala pour tous les bienfaits. Et vraiment, Allama Ousmani rahimahullah ta'ala, il dit quelque chose à travers ce ayat « Wa qalilum min ibadiy ash-shakur ». Très peu de mes serviteurs, ça c'est Allah lui-même qui dit, très peu de mes serviteurs, ils sont reconnaissants. Et Mufti Allama Ousmani rahimahullah ta'ala dit, tout ce qui se trouve en petite quantité, ça a de la valeur. Par exemple, c'est pas l'or par exemple, ou bien l'eau dans certains pays également. Tout ce qui se trouve en petite quantité, forcément ça a de la valeur. Et Allah il dit qu'il y a très peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc si vous allez être parmi les shakirin, vous allez remercier Allah tabaraka ta'ala, auprès d'Allah tabaraka ta'ala, vous allez avoir une grande valeur. Donc il y a un dua qu'on avait, alhamdoulilah, précédemment déjà mentionné. Pour remercier Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, Moufti Sahab rahmatullah alayhi, il a dit également, regardez, quand Allah ta'ala il a donné tous ses bienfaits à Sulaiman alayhi salatu wasalam, Allah ta'ala dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Le premier bienfait qu'Allah tabarak wa ta'ala il a mentionné avant le pouvoir sur les djinnats, etc., etc., c'est le bienfait de la science, du ilm. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. Ils ont remercié Allah tabarak wa ta'ala. Alors de remercier Allah tabarak wa ta'ala, de faire le shukr, d'abord dans un premier temps, avec le cœur, d'avoir la conviction que ça provient d'Allah tabarak wa ta'ala, et qu'Allah ta'ala il peut détruire et enlever cela quand il veut. De le dire avec la langue, mais également surtout, d'utiliser ses bienfaits dans la volonté, dans l'obéissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Ça sera le véritable shukr. Alors le doigt, comme on avait dit la dernière fois, le matin, donc, de lire Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa lak ash-shukr. Wallah, tous les biens qui existent, les bienfaits qu'il y a dans ce monde et que tu m'as donné ou bien à n'importe laquelle de tes créatures, alors cela ne provient uniquement et exclusivement de toi et il n'y a donc, tu n'as aucun associé. Et le soir, de remplacer ma asbaha par ma amsabi. On devrait prendre un temps comme on a le temps pour faire tilawat, un temps pour faire la salah, un temps pour faire rosa, un temps pour faire doa, un temps juste pour méditer sur les bienfaits d'Allah. Et les bienfaits d'Allah, ils sont physiques, ils sont spirituels, ils sont mondains et ils sont également religieux. Wa asbara alaykum ni'amahu zahiratan wa batna. Et bien souvent, trop souvent, on oublie facilement les bienfaits religieux. Même le fait d'avoir la masjid, le fait d'avoir les facilités, toutes les facilités, le fait d'avoir des ulama, lorsqu'on voit que dans d'autres pays, d'autres personnes, ils supplieraient pour avoir ce qu'on a, que ce soit en termes de programme, en termes de distribution, de kitab, en termes de tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, lorsqu'on vit dans la facilité, alors on oublie très facilement. Donc c'est bien fait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc premier doigt, Sulaiman a dit « An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ». En apparence, ça semble extrêmement simple de faire choukab, mais vous voyez que c'est quelque chose qu'Allah Ta'ala lui-même dit que très peu de mes serviteurs, wa qalilun min ibadi ash-shakur, ils sont reconnaissants envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadith Mawlana Abdul Hamid dan barakatuhum, un de ses khalifas, il disait que, Hadith Mawlana, il nous expliquait que chaque jour au moins, il faut remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala pour 5 choses. Premièrement, de nous avoir fait un être humain, parce qu'Allah Ta'ala, il aurait pu me créer en tant qu'animal. Deuxièmement, de nous avoir donné l'iman, de nous avoir donné la foi, de croire en Allah tabaraka wa ta'ala et tout ce qui va avec. Troisièmement, de nous avoir fait parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, d'avoir fait que c'est Allah ta'ala qui décide du rizq, c'est-à-dire c'est lui qui détient les clés de la distribution de la subsistance. Et même cela, on était passé dans un ayat, on n'a pas développé, malheureusement. Mouti Sahib rahmatullah alayhi dit, le fait qu'Allah ta'ala il ait mis certaines personnes avec un certain moyen financier, beaucoup d'aisance, et d'autres un peu moins, ça aussi, ça contribue à l'équilibre de la société. Si tout le monde n'avait pas de moyens, ou si tout le monde avait trop de moyens, alors il y avait certains travaux que personne n'aurait voulu faire. Donc ça aussi, c'est dans la sagesse d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc d'avoir le risque, et cinquièmement, d'avoir caché nos péchés. Donc il dit au moins ces 5 choses-là, de remercier Allah, tabarak wa ta'ala. Ensuite, pour terminer, dans la suite de du'a, Sulaiman alayhi salatu wassalam dit wa an a'mala salihan tarda. Et Allah, donne-moi la possibilité de faire des bonnes actions que tu agrées. Et là, Mufti Sahib rahmatullahi alayhi, il dit qu'il n'est pas suffisant de faire des bonnes actions. Man ja'a bil hasanati. Le professeur Hatmana Moussa Kaji dam barakatuhu, un des khalifas de Mawlana Abdul Hamid, il disait jazakumullah khair. Allah a dit, celui qui va amener, celui qui va se présenter, il va apporter les bonnes actions le jour de Qiyama. Ce qui veut dire que parfois on peut faire l'action, mais nous avons détruit cette action. Comme on a vu parfois à travers la médisance, à travers la jalousie, à travers des mauvaises paroles, on a usurpé quelqu'un, fait du mal, etc. Alors on est en train de détruire nos bonnes actions. Donc ici, Sulaiman al-Salat al-Sam, il dit, oh Allah, une bonne action que j'ai faite, mais que tu agrées, ça veut dire que tu acceptes. Et là, un autre de nos professeurs, il nous disait, c'est pour ça, quand vous faites du'a, ne demandez pas seulement à Allah tabarak wa ta'ala qu'il vous utilise pour le din. Ne demandez pas uniquement qu'Allah il vous utilise pour le din. Parce qu'Allah tabarak wa ta'ala peut utiliser n'importe qui pour le din. Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Et si je me trompe, c'est dans Sahih al-Bukhari, Allah Ta'ala il aide ce din par quelqu'un qui est un pécheur, un transgresseur. Et donc il nous disait que ne faites pas seulement du'a qu'Allah il vous utilise pour le din. Même les talibérim, c'est-à-dire ceux qui étudient un peu l'arabe, en tout cas en Afrique du Sud, il y a des dictionnaires pour on étudie les kitab, on apprend l'arabe, on utilise un dictionnaire arabe anglais et ça a été écrit par un juif. Et tous les étudiants, les alim, les futurs alim, ils utilisent ça. Ils disent, regardez, vous voyez, Allah Ta'ala, il a utilisé pour le dîn, mais Allah ne l'a pas accepté pour le dîn. Donc, wa anna amala salihan tarda, Allah Ta'ala, une action que tu agrées. Qubuliyat. Donc, il dit, non seulement Allah il vous utilise, mais surtout qu'Allah il vous accepte pour le dîn. Avec afiyat, inshallah, bien évidemment. Donc il faut également qu'on essaye de se concentrer. D'ailleurs, Abdul Hamid, Dame Barakatou, mon cher, à la fin du mois de Ramadan, il disait également de faire beaucoup ce doua. Et ça, regardez, Souleyman alayhi salatu wasalam, il demande, Ibrahim alayhi salatu wasalam, il construit la Kaaba, quelle grande action. Mais qu'est-ce qu'il dit? Rabbana taqabbal minna, ou Allah accepte de nous. Donc maintenant, il explique, il dit que regardez, on a fait le mois de Ramadan, mais peut-être notre namaz tarawih, peut-être notre wuzu même n'était même pas correct, peut-être notre jeûne, on ne sait pas quelle action on a fait, peut-être parfois on a oublié, etc. Donc on demande à Allah tabarak wa ta'ala d'accepter cela. Et il dit, même si Allah tabarak wa ta'ala a accepté vos actions, alors n'oubliez pas, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, que ce ne sont pas vos actions qui vont vous faire entrer dans le paradis, mais vos actions, Mawlana Fazlur Rahman, Dame Barakatou, m'explique. Il dit, les actions, c'est un moyen d'attirer la clémence d'Allah. Mais c'est la clémence d'Allah qui va vous faire entrer dans le paradis. C'est pour ça, Souleyman alayhi salatu wassalam, et nous aussi, on termine là-dessus. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Oh Allah, de fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Donc voilà un très beau doua. Si on fait ce doigt, qu'Allah Tabarakata nous pardonne et il accepte, Inch'Allah, il donne la possibilité de pratiquer sur le Coran Sharif tout ce qui a pu, Inch'Allah, être proposé. Allah Ta'ala, il fasse que le Coran Sharif, il devienne notre vie, il devienne notre mort, il devienne nos nuits, il devienne nos jours, il devienne notre manière de vivre, notre manière de penser. Et Allah Ta'ala, il nous fait parmi les gens proches, qui sont très proches de lui. Dans un hadith Sharif, rapporté par différents muhaddisin alayhim ar-rahma, il est dit, inna lillahi ahlina minan nas. Allah tabaraka wa ta'ala, il a des gens, ahlina en lui-même, le mot ahal, ça veut dire la famille, mais ici, les gens qui sont très proches d'Allah tabaraka wa ta'ala, qila manhum ya rasulallah. On a demandé, ce sont qui ces gens, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ahlul Qur'an, hum ahlullah wa khasatu. Les gens du Qur'an, ce sont eux, les amis d'Allah, et ce sont eux les gens qui sont très spéciaux auprès d'Allah. Donc Quran, de toute façon, c'est là où tout a commencé, et c'est là où tout également, il y a tout pour notre vie. Allah Ta'ala, il fasse que ça devienne un véritable guide, Inch'Allah, et il nous pardonne, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Allah Ta'ala, il fasse que c'est un moyen, Inch'Allah, pour nous protéger et nous pardonner, et nous accorde cette récompense à nous, à nos parents, Inch'Allah. Alhamdulillah.